I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va recommencer, hein? Voilà, comme ça. Ah. Ça va. Je fais des phrases trop compliquées, du coup, j'arrive pas à les dire.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui souvent avec joie voit se maintenir face au poids grandissant des studios sans âme et de leurs armées de yes-men tout juste bons à débiter de la bouillie numérique au kilo, quelques irréductibles artisans de l'image comme on en fait malheureusement de moins en moins. On est peut-être des vieux réacs mais c'est comme ça. Aussi impossible pour nous de manquer la sortie d'un nouveau Clint Eastwood, le vieux grognard, nous revenant en ce mois de février 2018 avec le 15h17 pour Paris dont on va causer avec un trio de grands voyageurs qui ont déjà fait la gueule réunis ici à l'antenne Paris. Arnaud Bordas, salut Arnaud.
Salut Punk.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 121 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
C'est parce que j'ai dit vieux grognard, c'est ça?
Exactement.
Ça te plaît pas comme expression? Bah, c'est honorifique comme titre, grognard.
Ah bon?
Non, Arnaud?
Ouais, ouais, toi qui t'y connais en histoire. Il fait la fine bouche, mais attends de voir ce qu'il va
dire. Un grognard âgé.
Un grognard âgé, c'est ça que j'aurais dû dire.
C'est oui, c'est les vieux soldats de l'Empereur quand même.
Voilà, c'est ça, c'était les soldats de Napoléon. Hein. Bon, un peu de culture, monsieur Moïsaki.
Allez, allez.
Clint, c'est l'Empereur.
Clint, c'est l'Empereur, c'est vrai. Le 15h17 pour Paris nous raconte donc une histoire vraie, récente, à savoir l'attaque du Thalys à l'été 2015, attentat raté car l'assaillant fut désarmé, maîtrisé par les passagers, dont un trio d'Américains, trois amis, Spencer, Anthony et Alec en plein trip à travers l'Europe. Deux d'entre eux sont militaires, ça a sans doute aidé un petit peu. C'est leur histoire, celle de leur amitié aussi que nous raconte le film. La particularité première de la chose étant que les trois héros sont interprétés par eux-mêmes. Ce sont les véritables Spencer, Anthony et Alec qui pour Eastwood revivent cet instant déterminant de leur vie.
Gentlemen, there you go.
Thank you.
Look at the baby soda, Spencer.
Alex, shut the heck up.
Hélas, trois fois hélas, malgré tout l'amour que personnellement je porte à Clint, pour moi le film fut une épreuve, un désastre du début à la fin, exception faite peut-être des 10 petites minutes de l'assaut qui arrivent très très tard, près d'interminables séquences sur leur vie et leurs vacances. Alors si vous aimez les gros comptes touristes qui vont en boîte et passent leur temps à faire des selfies, vous allez être gâtés. Moi j'ai eu la sensation d'être contraint de passer un week-end d'intégration avec des étudiants en école de commerce, mais je vais laisser mes petits camarades nous dire comment eux ont vécu la chose. Qui commence? Arnaud, tiens, ça tombe sur toi.
Bon, je voulais pas commencer.
Ah bon, écoute, d'accord. Bon bah tu commences
moi,
pas.
Moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est difficile, hein, ouais, parce que quand on aime beaucoup le cinéma de Clint Eastwood, le truc, c'est effectivement, c'est un ratage total, quoi. Le truc, c'est que jusqu'ici, le cinéaste Eastwood, enfin jusqu'à il y a quelques années, on va dire qu'il filmait des anti-héros. Mais en les mythologisant, quoi. C'était ça qui était fort et impressionnant dans son cinéma. Maintenant, depuis quelques années, il semble qu'il ait fait une sorte de chemin inverse, c'est-à-dire un retour vers la réalité pour essayer de comprendre par la retranscription de leur expérience intime, comment des personnes peuvent passer, peuvent franchir le pas qui leur permet de devenir un héros. En tout cas,
c'était le cas de Sully notamment.
Voilà. Je me reprends parce que c'est pas exactement ça. De franchir le pas, non pas qui leur permet de devenir un héros, mais qui leur permet d'être vus comme un héros.
Oui, de montrer au monde qu'ils sont des héros.
Voilà, que le monde les perçoit comme des héros. C'est ça, Sully, le capitaine de l'avion dans le film précédent. C'est ça, le sniper d'American Sniper. C'est ça encore, ces trois personnages-là. Voilà. Là, je pense qu'il a tenté, les intentions du film sont nobles. Hein. Moi, j'avais envie de le voir pour ça. Quoi. On a l'impression qu'il a tenté de monter un grade supplémentaire dans cette démarche, déjà en embauchant les trois personnes qui ont vécu cette aventure pour leur faire jouer leur propre rôle. Et puis aussi dans le traitement du film, hein, y a constamment, on a l'impression, une volonté de vouloir créer une sorte d'effet de réel. Et qui en fait, moi je trouve, prend tout son sens mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard vu tout ce qui a précédé. Dans le plan d'ouverture de la séquence à l'Elysée à la fin, où on voit c'est pas du spoil, hein, mais où on voit les trois personnages, donc les trois vraies personnes qui les jouent, qu'on vient de voir pendant tout le film, côte à côte avec François Hollande dans les images d'actu, quoi. Et donc là, je pense que c'est là où on se dit, ah oui, c'est ça qu'il voulait faire. Mais le problème, c'est que en fait, les partis pris qu'il a pris en cours de route, c'est-à-dire une narration très relâchée, une photo très relâchée, des acteurs
très peu relâchés.
Plus que relâchés, là c'est la catastrophe, quoi. Sape finalement tout ça, c'est-à-dire je pense que la volonté de rechercher cet effet de réel a fini par lui faire oublier qu'il y avait le mot effet dans effet de réel, quoi. Et que c'est qu'avec ça qu'on fait du cinéma, quoi. Donc voilà, quand on arrive à ce plan-là, on se dit bah c'est bien dommage, parce que oui, ça aurait pu être intéressant, mais s'il avait essayé de faire du cinéma, et ce que c'est clairement pas. Et ce qu'il avait fait, par contre, moi je trouve, sur Sully, dans une moindre mesure, mais surtout sur American Sniper. Donc voilà, c'est un bon gros gadin, quoi.
David, je crois que tu es moins dur que Carnot et moi.
Je suis d'accord avec certains aspects de ce que vous avez dit. Moi, je trouve que c'est un film effectivement sur lequel on n'attend pas, on s'attend pas Clint Eastwood faire ce genre de choses, parce que c'est un film très conceptuel avec finalement assez peu d'emphase, assez peu de style visuel. Et en fait, c'est un film qui en même temps s'inscrit plutôt bien dans les thématiques qu'il a développées sur la fin de sa filmographie, et une sorte d'obsession autour du concept de héros. Et là, on est sur un film très, très conceptuel, presque méta, sur la question de qu'est-ce que c'est un héros, et peut-être même qu'est-ce que c'est un héros américain. Et pour moi, en fait, je me suis pas ennuyé pendant le film, parce que c'est un film qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait me poser pas mal de questions, et qui est, du coup, je trouve, un film un peu cérébral, un peu conceptuel, qui manque du coup de cinéma. Mais il y a pas mal d'éléments du coup que je trouve intéressants, notamment donc en fait un peu comme pour Sully, en fait le nœud du film dure très peu de temps. Du coup, il faut pour pouvoir durer un film revenir en arrière, faire des flashbacks et raconter un peu le contexte, etc. Et là, on revient énormément en arrière, puisqu'on voit l'enfance des héros qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont eu des trajectoires distinctes, etc. Et il y a un certain nombre d'éléments qui participent à ce conditionnement. C'est-à-dire, ce qu'on se demande, c'est comment on devient un héros, en fait. Comment à un moment on va passer le pas et faire quelque chose d'incroyable qui va sauver des vies. Et il y a ce double mouvement qui est d'une part raconter ça, raconter l'héroïsme, et en même temps, d'autre part, et c'est peut-être, je pense, qui a été cherché dans l'effort de réalisme, banaliser cet héroïsme. En fait, dire que l'héroïsme est à la portée de tout le monde. Et il y a un truc, dans une des toutes premières séquences à l'école, dans le décor de la salle de classe, il y a un poster que doivent faire les enfants, avec marqué « Hero of the Week ». Donc il y a des trucs comme ça qui semblent être très ancrés dans la culture.
Oui, il y a souvent des affiches, on voit dans le collège, je sais plus, il y a marqué « Great habits make great leaders ».
Voilà, le drapeau américain est décliné de plein de manières, de manière enfantine, etc. Et très... et
les autocollants de la NRA.
Voilà.
Dans la chambre du gamin.
Et puis, il y a même des trucs méta. Dans la chambre du gamin, il a deux posters de films. Il a un poster de Full Metal Jacket et un poster de Lettre d'Iwo Jima. Oui. Donc, c'est le mec qui est fan de Clint Eastwood. donc voilà. Donc, y a, dans le projet, il y a ce truc que je trouve assez unique et très intéressant, en tout cas sur le papier, de faire jouer aux vrais protagonistes leur propre rôle. Moi je trouve pas, enfin ça m'a pas choqué, en fait je trouve que qui s'intègre dans l'esthétique globale du film, qui est
tout le monde
pauvre.
Joue mal.
Non mais en fait c'est je trouve pas qu'il joue mal, en fait je trouve que c'est pour ça, moi je sais plus si on le disait hors antenne ou pendant l'émission, sur quand Clint est en France, il a envie de faire du cinéma français.
On le disait hors antenne.
Moi qui ne rejette pas le cinéma français, je comprends cette esthétique, et je trouve pas que c'est mal joué, en fait. Enfin je trouve que c'est une manière de jouer qui est pas forcément mauvaise, et qui et qui ici fonctionne.
Le problème, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi les règles exactement là-dedans ? Qui joue son propre rôle et qui ne le joue pas ? En fait, pourquoi on choisit de dire voilà, ces trois personnages-là, on va les faire jouer leur propre rôle, quoi ? Et pourquoi les mères de famille, c'est pas elles, quoi, par exemple ? Tu vois, ça fait partie.
Alors qu'on les voit à la fin, si j'ai bien compris.
Non, puisque c'est encore les actrices.
Ouais, mais il y a pas les deux. J'avais l'impression que c'était suggéré qu'il y avait les deux.
T'as
que
Hollande quand il fait son discours avec les soldats qui est une vraie image d'actu, mais après t'as des plans de coupe sur l'assistance et là forcément t'as les actrices.
D'ailleurs,
c'est là où on voit le
d'ailleurs on voit la doublure de Landseguy Marchand en fait, ouais, voilà. Visiblement.
Non, c'est Patrick Braoudet, je crois.
Il y a un problème de taille.
Patrick Braoudet, mais
apparemment,
Braoudet a joué le rôle de Hollande dans plusieurs téléfilms, mais c'est encore Braoudet là.
Il me semblait qu'il le faisait pour la deuxième fois. Faudra vérifier.
Mais du coup, en fait, cette séquence, juste pour en parler deux minutes de cette séquence, donc à la fin, ils sont intégrés. En fait, il utilise à la fois les vraies images des vrais acteurs pendant le discours d'Hollande, plus des plans qui ont été retournés pour faire des contre-champs sur la famille, etc., plus des plans sur le perron de l'Élysée, etc. Et la scène fonctionne pas du tout pour deux raisons. D'abord, il y a des régimes d'images différents, c'est pas la même qualité, donc on voit.
Oui, mais ça, on sait que c'est la télé. Enfin,
Mais du coup, il aurait pu trouver des idées de mise en scène qui auraient fait disparaître ça. Et le truc, effectivement, c'est la doublure de dos ne ressemble pas du tout à Hollande. Donc du coup, à chaque fois, il y a un truc qui choque, quoi.
Moi, je suis d'accord avec le concept du film, c'est-à-dire et c'était ce qui m'intéressait aussi, hein, le fait qu'il aille chercher ces acteurs-là, comment dire, pour jouer leur propre rôle, enfin ces non-acteurs pour jouer leur propre rôle, à condition de réussir le truc, parce que le problème, en fait, de la qualité d'Eastwood de manière générale, s'avère être un problème ici. C'est que c'est quelqu'un qui est très réactif, qui fait les films très vite, qui est toujours under budget, qui est dans le no bullshit en fait total, c'est-à-dire en gros on va pas tergiverser 50 ans, voilà. Et là le problème c'est que on a l'impression littéralement que tout le film a été fait trop vite, c'est-à-dire que quand tu prends des acteurs qui sont pas des acteurs quoi, qui savent pas jouer, manifestement ne savent pas jouer, et que tu leur fais faire que trois prises, bah tu te retrouves comme un con au montage, hein, parce que là en l'occurrence c'est un problème. Mais tout le film est fait comme ça, c'est-à-dire que dans cette notion de on lui a beaucoup reproché de mythologiser justement le personnage de l'American Sniper, dans 15, 20, 30 ans, 40 ans, peu importe en fait, quand on regardera ce film-là et qu'on sera sorti du contexte, bah ça sera un film, vraiment. C'est-à-dire que en gros, si tu veux, même si c'est faux, même s'il allait pas à la chasse avec son père, bah le fait qu'il y ait cette scène au début où il parle, comment dire, où il prend son fusil, en fait il lâche son fusil et son père lui dit tu ne lâches pas le fusil, sur le truc, quoi. À la fin, en fait, en gros, si tu veux, ça a une résonance quand il le laisse sur le champ de bataille.
Oui,
quoi.
Ça a un sens cinématographiquement parlant.
Voilà. Donc, du coup, le problème, si tu veux, c'est que là, en fait, en gros, ils sont amis, mais les connexions, elles sont vagues. Ils vont faire la fête ensemble, mais les connexions, elles sont vagues. L'autre, il se retourne en Allemagne, il retrouve sa copine, mais. Ça ne débouche sur rien. Et toutes les scènes sont comme ça, c'est-à-dire que toutes les scènes, même le moment en fait où on te présente les gamins au début comme des personnages turbulents, tu te dis ça va avoir une connexion avec le fait de prendre un risque, d'être autonome, d'y aller en fait dans la scène finale. Non,
pas du tout,
jamais. Ouais. Donc le problème c'est que effectivement t'as ce souci pour moi de regarder un film qui est du remplissage pur, c'est-à-dire pendant en attendant la fameuse scène qui quand elle arrive pour moi est non événementielle. C'est-à-dire que en gros, déjà, elle se concentre vraiment sur un personnage et sur le parcours d'un personnage. C'est le seul en fait auquel il offre un tout petit peu un parcours. Qui est pareil. Enfin, qui est quand même. Après, ça, c'est
question de jugement personnel.
Question de jugement personnel. C'est pas un très bon acteur et c'est pas un personnage. Enfin, c'est pas un type très charismatique, moi je trouve. Les autres personnages, ils n'existent pas. Ils sont littéralement. Le Black. Enfin, je sais, j'ai perdu son nom.
Anthony.
Il est inexistant dans le film, c'est pas un troufion, mais le problème en fait c'est que voilà, il y a ce truc, et du coup moi j'ai l'impression que le film a été fait en gros j'ai l'impression qu'ils ont compilé les moments que les mecs ont vécu, ils se sont dit bon on va essayer d'en faire quelque chose de l'ordre d'un film, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on regarde un film, on regarde pas un documentaire, on n'est pas en train de regarder un truc
ou un téléfilm Lifetime, parce que moi c'est vraiment ça que ça m'a fait penser, hein.
C'est-à-dire que après ça c'est un autre problème, quand le film s'est terminé, qu'on a regardé le générique et je voyais que c'était encore Tom Stern le chef op, je me suis dit mais c'est le mec qui a fait la lumière de Million Dollar Baby qui a fait ça, c'est pas possible. J'ai l'impression que tout le monde a fait ce film en quatrième vitesse, quoi. C'est-à-dire écrit le film en quatrième vitesse, sans comment dire, coller les morceaux ensemble, shooter le film super vite, parce qu'on sait qu'il a été tourné là en août-septembre, et balancer dans les trucs. Et alors le film n'a pas été montré, la plupart de la presse. On suspectait des problématiques, liées au fait que ça pouvait être un film patriote, etc. etc. Et ce qui était problématique en France, sur ce sujet, qui est encore un peu chaud.
C'est peut-être plutôt lié à la qualité intrinsèque.
Mais moi,
du
je
film,
pense que c'est ça, hein, parce que c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que moi, pour moi, hein, et je suis un énorme fan de Clint Eastwood, j'ai quasiment tous ses films à la maison. Je peux te défendre contrairement à David Honora au-delà sur certains points, tu vois, pas tout hein, mais sur certains points, je peux te défendre des films que beaucoup de gens détestent, enfin trouvent mauvais, et moi je les trouve excellents. Ça c'est indéfendable. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à défendre ça. C'est pour moi c'est son pire film. Et il en a pas fait 50 des mauvais films quoi. Il en a fait 3 peut-être. Mais celui-là c'est le pire des 3. Et c'est un crève-cœur hein, en fait quand tu vois ça
sûr,
parce que
tu te dis
il y a un problème de dans la façon de d'aborder tout simplement cette approche effectivement comme disait Arnaud cette idée de ramener le réel dans comment dire dans son cinéma. Et il n'est pas fait pour ça.
Il a inversé l'injonction de Liberty Valance. En fait. Il a peut-être eu l'impression que la réalité était supérieure à la légende et qu'il pouvait se contenter de la réalité.
Ça, encore une fois, quand il faisait ça avec American Sniper ou Sully, je veux dire, le truc avec Sully, par exemple, c'est qu'on pourrait croire que le sujet n'est pas très intéressant parce que ça se passe dans les 3 minutes en gros où il a sauvé les passagers. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un héros. C'est évident, il a sauvé tout le monde et on le fait chier. La bureaucratie le fait chier. Ouais. Donc le truc c'est que c'est ça qui est intéressant le sujet, c'est pourquoi en fait on peut pas te laisser faire ça. Là, t'as même pas un concept, t'as même pas une thématique comme ça en fait.
Pour moi, le sujet là, c'est ces types ont été des héros et pourtant c'est des gens lambda quoi. Enfin c'est ça qui l'intéresse.
Parce que c'est quand même des militaires quoi, tu vois.
Mais des militaires un peu ratés, un mec qui même ses potes pensaient qu'il n'en serait jamais capable. Enfin, il y a quand même un truc là-dessus qui est et finalement il y a même un mec dans le film qui est presque traité comme un figurant alors que c'est aussi un héros. Le mec qui arrache l'arme du terroriste et qui se fait tirer dans le dos. Il y a un truc là-dessus qui dit que à un moment donné n'importe qui peut faire quelque chose, sauf que c'est fait effectivement avec un refus du cinéma entre guillemets
le problème c'est que enfin tu disais tout à l'heure une approche conceptuelle mais le problème c'est que ça ne reste que ça quoi. C'est juste du concept. Et ça, Eastwood, il ne nous avait pas habitués à ça. Quoi.
Ah, pas du tout.
C'est-à-dire, le concept, c'est bien, mais c'est le point de départ, le concept. Si tu ne l'incarnes pas à l'écran par des véritables idées, ça ne fonctionne pas, tu vois, s'il n'y a pas une vraie construction, une vraie dramaturgie. Et le truc, moi, pour moi, la marque de fabrique d'Eastwood aussi, c'est que c'est un grand cinéaste de l'ambiguïté, quoi, du trouble. Et là, il n'y a rien, à aucun moment. Il y a peut-être juste une petite remise en question, là, rapido, quand ils font les touristes en Allemagne, où il y a un guide qui leur fait comprendre que c'est les Russes qui ont libéré Berlin, pas les Américains. Il leur dit, les Américains, ils sont pas toujours là pour combattre le mal, quoi. C'est pas toujours eux, quoi. Et c'est peut-être le seul petit truc, mais on a presque l'impression...
Le mec chante Springtime for Éclair, juste après. Ouais. C'est très, très gênant.
On a l'impression que c'est juste pour se dédouaner, se défausser, quoi, du reste du film.
Oui.
Parce que, moi, il m'a rarement habitué à être même des films que j'aime pas, hein, comme le récent Edgar, c'est pas monolithique comme ça, quoi. Il y a aucune porte de sortie pour le spectateur, quoi.
Il y a un problème de fabrication. Il y a un vrai problème de fabrication.
Oui, je pense
là,
que c'est,
le,
c'est ça qui rattrape le film, effectivement. Ouais.
On est dans les plans où ils sont en train de se balader à Rome et tout ça, c'est gênant. Hein. C'est quand même des décors magnifiques et c'est filmé, mais comme
oui, et puis s'il passe rien, quoi. C'est-à-dire
s'ils font des selfies.
Voilà, mais s'il passe pas plus que quand
j'ai cru que j'allais sortir de la salle au bout du 18e.
Ils mangent des glaces.
Ils mangent des glaces.
Plus mon bon Thomas que quand tu es toi et ta famille en train de balancer des pièces dans la fontaine, tu vois.
Ah, c'est
voilà, donc c'est un peu problématique. Ouais. Hein.
Et ils ont des perches à le selfie. C'est cool. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on prend 2-3 minutes pour faire une petite tournée de recommandations. On peut rester chez Eastwood, on l'a déjà fait, donc vous n'êtes pas obligés parce qu'on a déjà fait des émissions sur Clint Eastwood. On a déjà fait aussi des émissions sur les films de train parce qu'on avait fait on en parlait avec David avant l'émission. On avait fait le dernier train pour Busan. On avait déjà fait quelques recos films de train. Donc attention.
Stéphane avait recommandé Piège à grande vitesse.
doublon, évidemment. Stéphane avait recommandé Piège à grande vitesse.
Piège qui veut commencer vitesse, qui, ça le... fait mal au cul de le dire, mais t'as un meilleur film que 15h17 pour Paris. Je te crois, c'est pour le faire quand même. Hein.
Stéphane, c'est quoi ta reco?
Il faut une reco alors.
Bah oui,
je suis sûr que j'avais
c'est
déjà
juste
fait
le
cette 121e
reco. Épisode.
Non, mais je suis sûr que j'avais déjà fait cette reco, mais je vais la refaire pour Clint Eastwood parce qu'il faut que les gens sachent.
Ok. Pale Rider.
Que mon Clint Eastwood préféré, même si c'est pas le meilleur, objectivement, on sait bien qu'un pitoyable c'est bien meilleur que ça, c'est pas le problème. Mon Clint Eastwood préféré, c'est L'épreuve de force. Donc je l'ai peut-être fait, je sais plus.
Il me semble que tu l'as déjà fait.
C'est pas grave, je le répète.
C'est pas grave, dis-le.
Avec formidable Clint Eastwood qui joue le formidable Ben Shockley, qui est un vrai, personnage, borderline et
ambigu pour le coup. Là,
ambigu puis un raté en fait qui réussit son affaire et qui trompe son monde à la fin quoi. Avec moi, pour moi, c'est un des. On dit souvent que Les Dents de la Mer c'est l'entrée du blockbuster à Hollywood vraiment en fait ces films-là. Mais ça c'est des questions, on va dire entre guillemets de
gros sous.
Ouais, de ce que ça rapportait en fait.
En termes de production.
Voilà, en termes de box-office, vraiment quoi. Mais à l'époque, il y avait par exemple des films comme La Tour Infernale, ce genre de choses. Oui. Et je trouve que, comment il s'appelle, L'Épreuve de Force, il préfigure un petit peu le cinéma des années 80 aussi. Parce que t'as... Ouais, non, mais le cinéma des années 80, parce qu'en fait, en gros, les mecs, ils mettaient de la thune dans. Enfin, tu vois, c'est limite du Joel Silver. Les mecs, ils ont balancé $1 million dans la scène finale. Quand le bus rentre dans Phoenix et se fait défoncer par des milliers de douilles, en fait, des milliers de balles qui. Ils ont balancé $1 million dans cette scène. Donc moi, je me dis, bon, quand on est prêt à lâcher autant d'argent, pour une scène comme ça, c'est que, voilà, quoi. Non, L'Épreuve de Force, c'est formidable. Et c'est hyper drôle, hyper rythmé. C'est un vrai film d'action. Moi, je trouve, c'est un film des années 70, évidemment, mais c'est un vrai film d'action qui tient complètement la barre aujourd'hui et qui est formidable, quoi.
David.
Moi, du coup, je suis emmerdé par ces histoires de films de train.
Si je me
souviens plus
de
ce que j'avais recommandé. du coup, moi, en film de train, c'était peut-être ça que j'avais déjà recommandé. Je recommande Unstoppable de Tony Scott, qui est.
Il me semble que c'était ça que t'avais recommandé.
En disant ça, j'ai l'impression que j'ai la sorte de double recommandation a aussi parlé de Runaway Train, dont j'avais aussi dû parler. Enfin bref, bon, vous voyez ces deux films.
Non, mais dis-nous pourquoi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté l'épisode sur le train pour
Pizza. Unstoppable, c'est le dernier film de Tony Scott.
Ouais, oui, c'est son dernier. Ouais.
Et donc, voilà, c'est le pitch est assez simple. C'est un énorme train qu'on n'arrive pas à arrêter. Et donc, tout le sujet du film va être de trouver comment réussir à le ralentir et l'arrêter avant qu'il aille s'exploser au milieu d'une ville. Et c'est un film avec énormément d'idées de mise en scène sur la manière. En fait, filmer un train, ça nous rajeunit pas, mais déjà l'arrivée en train l'arrivée du train en gare de la Ciotat.
Que tu as vu à l'époque, tout le monde.
C'est ça.
Non, mais on s'était déjà rendu compte que c'était très cool de filmer des trains. Et du coup, dans Unstoppable, il y a une manière de rendre la masse de métal lancé à grande vitesse qui est hyper prenante, hyper impressionnante, enfin qui je trouve fonctionnait très bien au cinéma. Je l'ai revu depuis sur une télé, ça tient quand même la route, ou les rails.
Ou les rails. Oh, excellent.
et Runaway Train, en fait, Unstoppable pourrait presque être une sorte de remake déguisé de Runaway Train, où il y a en plus une intrigue d'évasion et puis des. Enfin, une sorte de combat à l'intérieur du train
Et
c'est pas filmé pareil. Ouais, mais enfin, tu trouves que c'est moins bien filmé?
Ah non, les deux sont très bien filmés,
mais c'est filmé différemment.
Oui, c'est pas le même style, ouais.
Et donc les deux valent le coup d'être vus. Ça peut être un double programme.
Très bien, c'est beau. Arnaud.
Bon, moi, pas un film de train, parce que je trouve pas que le Clint Eastwood serait vraiment un film de train. Hein. On aurait pu le croire, mais c'est pas le cas.
Ouais,
donc, moi, je vais recommander American Sniper, qui est pour moi le dernier grand chef-d'œuvre d'Eastwood. Quoi. Et je vais d'autant plus le recommander que, par exemple, là, je viens de voir avant l'émission une dépêche de l'AFP qui rapportait une critique là, et qui disait voilà, Clint Eastwood est mort, ça fait déjà plusieurs films, comme dans American Sniper, qu'il a cédé à une sorte de patriotisme dégoûtant. goulinant, machin et tout. Enfin, je veux dire, il suffit. Je pense que si on se tape les deux films l'un à la suite, on verra nettement la différence. Toute la réflexion qu'il y a justement sur le héros. Alors, peut-être que les gens, enfin, certains spectateurs auraient préféré qu'au moment où il a une femme dans son viseur, il baisse le fusil et puis qu'il dispisse, mais ça n'avait plus rien à voir avec le personnage. Et surtout, voilà, Clint Eastwood, il a il a les couilles de montrer cette scène. Et forcément, par rapport au final du film, de montrer ce que c'est qu'un comment on peut voir un héros aujourd'hui, quoi, et un type qui a tué 300 personnes sur le champ de bataille. Il y a un questionnement qui n'est pas revendiqué dans le film, mais qui s'inscrit en creux par les procédés cinématographiques qu'il utilise, l'iconisation du personnage, tout ça, et l'ambiguïté, elle est encore là aussi, quoi. Et c'est un film qui, moi, c'est pour ça que 15h17 m'intéressait, le 15h17 pour Paris, parce que c'est un film qui se termine sur une scène de réalité où on voit le cercueil du sniper passer sur l'autoroute comme ça, avec tous les gens sur les bords de la route qui l'applaudissent, tout ça, et qui sont des images réelles, c'est des vraies images d'infos, d'actualité, quoi. Et du coup, je me disais, c'est il part vers ça, il a envie de faire ça, donc je me disais, quelque part, 15h17, c'est logique qu'il fasse ça après, quoi, avec les vrais personnages qui jouent leur propre rôle, tout ça. Et voilà, quelle déception, mais oui, non. Regardez le formidable American Sniper.
Sinon, le 15h17, c'est à voir au cinéma si vous avez le courage. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour toutes les infos utiles, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et on vous dit à très vite.